Maintenant, on voudrait parler au sujet d'un ouvrage qui s'appelle « Dans leurs propres mots, la mobilité dans les écrits personnels et les correspondances 17e au 20e siècle ». Et pour en parler, on a avec nous le professeur d'histoire et titulaire de la chaire de recherche du Canada de niveau 1 sur les migrations, les circulations et les communautés francophones à l'USB, Yves Frenette. Bonjour, bon matin.
Bonjour Caroline.
Alors justement, c'est un lancement d'un ouvrage. On parle ici de la migration de ceux qui l'ont vécu. C'est un projet que vous avez co-dirigé ici avec Isabelle Monin et Christine Nugaret. Donc, parlez-nous un petit peu de comment vous avez réalisé ce projet, cet ouvrage.
Oui, ben moi, je suis arrivé à l'Université de Saint-Boniface en 2013. Et en 2015, on a organisé un colloque qui portait à peu près le même titre. Et l'idée, c'était de réunir des spécialistes, de réunir à Saint-Boniface des spécialistes européens et des spécialistes canadiens sur la question des migrations, mais d'aborder le problème d'un angle particulier, c'est-à-dire de voir comment les gens eux-mêmes ont décrit leur migration à différentes époques et dans différents contextes. Alors, il y a des témoignages de personnes qui sont peu lettrées, hein, qui ne manipulent pas très bien les mots parce qu'ils n'ont pas été beaucoup à l'école. Il y a des témoignages de gens qui sont très très lettrés, très savants. Et ça n'a pas été beaucoup étudié, justement, la mobilité, dans l'idée de la mobilité géographique. On parle beaucoup de migration et de mobilité de nos jours. Mm-hmm. Et on s'est dit comment on pourrait contribuer au débat en retournant dans le passé, puis en traversant l'Atlantique. Donc, il y a eu un colloque en août 2015, et le livre qui en est le résultat, reprend la majorité, pas toutes, mais la majorité des conférences qui ont été prononcées. Et aussi, on a ajouté un texte qu'on trouvait pertinent, deux textes qu'on trouvait pertinents de personnes qui ne pouvaient pas assister au colloque pour différentes raisons.
D'accord. Alors maintenant, on parle ici du 17e au 20e siècle. Alors, c'est d'une longue durée. Ici, on a des différentes expériences de gens à différentes époques. Quels sont quelques exemples de défis, peut-être, qui sont venus à ces gens-là qui ont voulu migrer en Amérique du Nord?
Ben, par exemple, on peut prendre l'exemple, c'est notre collègue de l'Université du Manitoba, Armel Saint-Martin. Il y a eu un père jésuite qui s'appelait le père Labatte, qui lui était aux Antilles et qui parle beaucoup qui se sert de son expérience pour décrire. Son livre s'appelle Le Nouveau Voyage aux îles de l'Amérique et il parle justement de sa migration à lui. Et il décrit ce qu'il voit autour de lui, parce que ce qui est important aussi dans des expériences comme ça, c'est non seulement les gens parlent d'eux, mais comment décrivent-ils des nouveaux paysages qu'ils découvrent? C'est un petit peu comme nous quand on déménage. Ben, comment on raconte à nos proches? Aujourd'hui, c'est surtout par courriel qu'on le fait ou par Zoom. Comment on leur raconte? Oui, comment on leur raconte ce qu'on voit et comment on décrit. Et d'ailleurs, je vous donne un autre exemple. Simon Balou, qui est stagiaire postdoctoral à la chaire que je dirige, a écrit l'expérience de la mobilité dans les journaux de voyage de religieux français en exil au Canada. Il y en est venu beaucoup au Manitoba et ben dans l'Ouest canadien en général, beaucoup. Au Québec aussi. Et ces prêtres-là, qui avaient, comme il y avait un climat anticlérical en France, un climat contre l'Église, ils sont partis parce qu'ils se sont sentis contraints de partir. Leur vie n'était pas menacée, mais pour eux, leur liberté religieuse, ils percevaient que leur liberté religieuse était menacée en raison des lois que le gouvernement français avait émises. Et puis, donc, ils se se voyaient vraiment comme des exilés, comme des gens qui avaient, comme des prisonniers politiques dans un sens, comme des gens qui avaient été forcés de partir. Alors, c'est certain que c'est une leur expérience puis leur perception de la mobilité est très différente que quelqu'un qui a choisi, lui, de partir et de partir de son lieu d'origine et de déménager ailleurs. Alors, on a, par exemple, une collègue de l'Ouest américain de l'État de Washington, Sarah Herbert, dont le titre du chapitre, c'est « Réunion épistolaire familiale, les lettres Bergevin ». Hein? Quatre frères qui sont partis de la région de Montréal et qui se sont en allés très loin, qui ont traversé le continent, qui se sont en allés dans la région de Walla Walla, dans l'État de Washington. Et là, c'est les lettres que pas eux, parce que c'est les lettres que leur femme, ou leur femme, la femme de l'un d'entre eux, écrit à une cousine religieuse de Montréal.
Wow.
Qui, ben non, religieuse, mais qui elle-même vit une mobilité. Et là, c'est très intéressant, parce que ce qui est important de voir aussi, c'est que dans le cas des lettres, dans le cas de l'épistolaire, ça passe beaucoup par les femmes. Il y a, chez les francophones particulièrement, mm-hmm. il y a beaucoup plus de femmes qui prennent, ça fait partie des devoirs de la femme, si on veut,
mm-hmm.
à part le devoir de la femme dans ce milieu-là, dans un milieu comme ça, au 19e siècle, ben, c'est de s'occuper de la maison, de faire des enfants, d'élever ses enfants, alors que l'homme est à l'extérieur, lui. Et c'est la femme qui écrit. En fait, dans le cas de la famille Bergevin, comme je le disais, elle est la belle-sœur de cette religieuse. Et c'est elle qui écrit au nom de son mari et de toute la famille qui est à Walla Walla. C'est elle qui écrit à cette sœur religieuse qui, elle, parce qu'elle n'a pas d'enfant, se considère un peu comme elle veut réunir la famille, elle ne se verra, il y a des membres de la famille qui ne se reverront jamais, mais comme le titre de l'article l'indique, c'est une réunion épistolaire, on se retrouve dans les lettres, mm-hmm. et on essaie d'échanger des sentiments, et souvent aussi, il faut dire que dans des échanges épistolaires comme ça, dans des échanges de lettres, la lettre, elle n'arrive pas seule. La lettre, elle peut arriver avec des photos, elle peut arriver avec des souvenirs aussi. Dans certains cas, elle arrive avec de l'argent. On mm-hmm. envoie de l'argent à ses parents qui sont restés dans, comme on dit, je le mets entre guillemets, dans le vieux pays.
D'accord.
Alors, c'est le genre de choses qu'on trouve dans ce livre. Et ce qui est dommage,
oui.
c'est que,
D'accord.
quand je vous disais qu'il y avait eu qu'il y a eu certains changements, à l'origine, c'était jusqu'au 21e siècle. Et ce qu'on aurait aimé, c'était écrit personnel et correspondance dans le 17e au 21e siècle. Alors, on aurait aimé, justement, trouver quelqu'un qui aurait pu nous parler des échanges, la même chose, mais mm-hmm. par courriel, avec les nouvelles technologies. Voir, est-ce qu'il y a des continuités entre écrire une lettre en 1850 et envoyer un courriel à un proche en 2012.
Mais c'est très fascinant, toutes ces histoires de partager dans ce livre, et certainement ce serait à lire. Mais c'est malheureusement tout le temps qu'on a pour ce matin. Mais merci encore une fois, Yves Frenette, pour encore une fois professeur d'histoire à l'université, de partager ceci avec nous ce matin. Et on a certainement hâte de mettre notre main sur cet ouvrage.
Alors, il s'agira d'aller sur le site des presses universitaires de Saint-Boniface pour procurer le livre.
Okay.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup et bonne journée.